VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du lundi 22 février 2016. Avec vous de Washington, Claire Morin-Gibourg. Tout d'abord, les titres. Au Niger, les élections présidentielles et législatives se sont déroulées sans incident. Nous retrouverons à Niamey notre envoyé spécial Nicolas Pineau. En Centrafrique, Georges Dologuele reconnaît la victoire de Faustin Touadéra à la présidentielle.
Pour la paix.
J'ai fait donc le choix de respecter les résultats provisoires publiés par l'ANE.
En Syrie, plus de 150 personnes ont été tuées dans des attentats revendiqués par le groupe État islamique. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais tout de suite, nous retrouvons Nicolas Pineau à Niamey.
Oui, bonjour Claire, bonjour à tous. Nicolas Pineau, VOA Afrique, avec vous depuis Niamey, la capitale nigérienne. Takara 2016, le Niger vote. Tels sont les mots d'ordre sur les réseaux sociaux. Le grand rendez-vous de la démocratie nigérienne a donc eu lieu hier dimanche avec les scrutins présidentiels et législatifs tant attendu du 21 février. 7,5 millions d'électeurs, je vous le rappelle, étaient appelés aux urnes pour élire dans 25 000 bureaux de vote un président et 171 députés. Sur la ligne de départ, 15 candidats, dont le président sortant Mahamadou Issoufou, qui a affirmé pendant la campagne électorale pouvoir l'emporter par chaos dès le premier tour. Quant à l'opposition, elle a dénoncé dès samedi soir un possible hold-up électoral. Avant d'entendre les réactions des uns et des autres, reprenons le fil des événements. Dimanche matin, de nombreux bureaux de vote ont ouvert en moyenne avec une ou deux heures de retard en raison de l'absence d'une partie du matériel électoral. Un retard à l'allumage qui n'a pas empêché une participation massive et un vote dans le calme, comme nous l'explique ce matin Abdulrazak Idrissa, notre correspondant au Niger.
Oui Nicolas, il y a donc eu ce calme dimanche dans la majorité des bureaux de vote ici à Niamey. Ce que la capitale Niamey partage aussi avec les autres régions de notre pays, c'est le retard dans l'ouverture des bureaux de vote. Au moins une heure, ce qui fait que beaucoup de bureaux de vote sont allés au-delà de l'heure prévue pour la fermeture. Jusqu'à tard encore dans la nuit, les dépouillements continuaient à l'aide de lumière des lampes tempêtes dans différents bureaux de vote de Niamey, la capitale. Dans certaines contrées de notre pays, ce jour lundi sera encore jour de vote. C'est le cas par exemple du département de Kintabaraden, c'est dans la région de Tawa. Il n'y a en effet pas eu de vote là-bas, le matériel électoral ayant été acheminé trop tard dans la journée du dimanche. Il faut enfin noter que depuis son quartier général du Palais des Congrès de Niamey, la Commission électorale nationale indépendante centralise les résultats des différents bureaux de vote qu'elle publie au fur et à mesure de leur arrivée sur les zones des médias publics.
Merci Abdulrazak pour ces précisions. Vous l'avez dit, la nuit électorale a commencé hier soir pour la Commission électorale qui a débuté la collecte des résultats des différentes régions. Le vote par témoignage était l'élément clé de ce scrutin. Décrié par l'opposition et la société civile, il devait en théorie permettre à plus d'un million d'électeurs de voter si deux personnes d'un même bureau de vote pouvaient témoigner de leur identité. Les Nigériens rencontrés dans les différents bureaux de vote étaient enthousiastes à l'idée de participer à ce grand rendez-vous de la démocratie nigérienne. Je vous propose d'écouter certains témoignages recueillis auprès des électeurs dans Niamey, la capitale.
Ouais, c'est très important pour nous.
Pourquoi ?
Pour le développement de notre pays. Le pays va mal. Il y a aussi le racisme de notre pays, etc., etc. Comme d'habitude, les élections du Niger, on n'a jamais eu un problème. Mais cette année-là, on ne sait jamais.
C'est important d'être là pour tous les Nigériens, pas pour moi seul. Parce que la personne a bel et bien le droit de choisir son candidat.
Donc c'est un grand rendez-vous de la démocratie nigérienne?
C'est un grand rendez-vous aujourd'hui pour la démocratie nigérienne.
C'est un droit, un devoir en tant que citoyen nigérien de venir élire mon président.
Voilà pour ces réactions d'électeurs. Et je rappelle que vous suivez à Niamey sur le 102.5 FM, la fréquence VOA Afrique en français. Et en Hausa. Retour sur ce scrutin présidentiel d'hier avec la déclaration attendue du président du Niger, Mahamadou Issoufou. Ce dernier a voté à l'hôtel de ville de Niamey, entouré par une horde de caméras et de journalistes. On l'écoute à sa sortie.
C'est un grand jour pour le Niger. C'est un grand jour pour nos institutions. Vous savez que le Niger a besoin d'institutions démocratiques fortes et stables. Et j'espère que les scrutins d'aujourd'hui, présidentiels et législatifs, vont permettre de renforcer ces institutions. De toutes les façons, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Le seul vainqueur, ça sera le Niger.
Mahamadou Issoufou, le président nigérien sortant, qui s'est aussi agacé lorsque la question lui a été posée de savoir ce qu'il pensait du retard à l'ouverture des bureaux de vote. Le grand absent de ce scrutin, c'est bien évidemment Amadou, le président de l'Assemblée nationale, qui reste, vous le savez, derrière les barreaux pour cette affaire de trafic de bébés. C'est sa femme qui a voté en son nom. On écoute Ari Amadou, la femme de Amadou, le leader du Modem Lumana.
Le message que je voudrais adresser, je demande à l'ensemble du peuple nigérien de sortir pour aller voter, de sortir aller voter massivement pour sanctionner ce régime dont le mode de gestion du pouvoir et le mode de gouvernance ne répondent pas aux aspirations profondes du peuple.
Ari Amadou, la femme de Ama Amadou, elle était au micro d'Abdoul Razak Idrissa. Les premiers résultats du scrutin ne sont pas attendus avant demain mardi. Ils seront livrés par la Commission électorale nationale indépendante. De nombreux observateurs sont présents à Niamey pour cette élection, notamment 130 observateurs de la CDAO. Autre mission d'observation, celle de l'Union africaine. Jean Eyegendong, l'ancien Premier ministre gabonais qui la dirige, reconnaît des retards dans l'ouverture des bureaux de vote hier, mais que globalement, il n'y a pas d'irrégularité. On l'écoute ce matin sur VOA Afrique.
J'ai constaté que les Nigériens gardaient leur calme et que les élections se passaient normalement, en dehors des insuffisances dues à des retards ou du matériel. Par exemple, l'encre indélébile ou bien l'isoloir. Mais ça a été réglé entre 8h et 10h. Il n'y a même pas d'irrégularité, à mon avis. C'est vraiment la sérénité qui règne pratiquement dans tout le pays.
Jean Eyegendong, au micro VOA Afrique, depuis Niamey. L'opposition, de son côté, attend de voir les premiers résultats pour se positionner. Mais dès samedi soir, la COPA 2016, qui regroupe les principaux partis de l'opposition, avait dénoncé un hold-up électoral au Niger. Autre crainte ici, la coupure d'Internet. Assoumi Massaoudou, le ministre de l'Intérieur, oppose un démenti catégorique face à cette rumeur qui alimente beaucoup de conversations. On l'écoute.
Pourquoi faudrait-il couper l'Internet et les réseaux sociaux? Je ne vois pas de raison. Il n'y a aucune raison de devoir couper l'Internet et les réseaux sociaux. Ça, c'est encore beaucoup d'intoxication pour rien. Si vous suivez les réseaux sociaux, vous comprendrez que le Niger était en feu depuis longtemps, serait en feu depuis longtemps. Donc ça, c'est des points de vue marginaux qui essaient d'intoxiquer l'opinion, mais je pense que ça n'a aucune réalité.
Est-ce que vous créez des manifestations à partir de lundi?
Des manifestations, il peut y en avoir, mais je veux dire qu'il n'y a pas de raison de craindre des manifestations. Nous avons pris les dispositions aussi en tenant compte de cette possibilité-là.
Assoumi Massaoudou, le ministre de l'Intérieur. Ainsi va s'achever cette page spéciale élection au Niger. Merci à Abdoul Razak Idrissa, ici à Niamey, ainsi qu'à Anne Albertson depuis Washington. On vous donne rendez-vous sur voaafrique.com, sur notre page Facebook et bien évidemment sur le 102.5 FM depuis Niamey.
Et dans le reste, dans l'actualité, au Tchad, Saleh Kebzabo, le chef de file de l'opposition et président de l'UNDR, a été investi hier à N'Djamena, candidat par son parti pour l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu le 10 avril. Les autorités ivoiriennes ont extradé à Ouagadougou l'ancien homme de confiance du général Diendéré, l'adjudant-chef Moussa Nebié, dit Rambo, ancien membre du RSP, la garde présidentielle de Blaise Compaoré. Moussa Nebié est accusé d'avoir participé au putsch de septembre. Cette extradition pourrait décrisper les relations tendues entre les deux pays. En bref, à l'international, avec plus de 150 morts pour la seule journée d'hier, la Syrie a vécu la vague d'attentats la plus meurtrière depuis plus de 16 mois. Ces attentats ont été revendiqués par le groupe État islamique dans des zones tenues par le régime en Syrie. C'est dans ce contexte meurtrier que le secrétaire d'État John Kerry a annoncé à Amman un accord provisoire en principe avec la Russie sur les modalités d'une trêve qui pourrait commencer dans les prochains jours. Et toujours à Amman, John Kerry a rencontré hier le président palestinien Mahmoud Abbas pour appeler au calme et à une réduction de la violence entre Palestiniens et Israéliens. Dans les îles Fidji, le bilan du cyclone Winston, le plus puissant de l'histoire de l'archipel, est passé à 20 morts et pourrait s'aggraver. Et puis cette nouvelle fusillade. Ici aux États-Unis, un chauffeur travaillant pour le service Uber est accusé d'avoir abattu 6 personnes, apparemment au hasard, dans une petite ville du nord des États-Unis. sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce matin avec Nathalie Barge.
La New Development Bank a octroyé à l'Afrique du Sud un prêt de 250 millions de dollars pour construire des lignes de transmission d'électricité reliant des centrales solaires et des parcs éoliens au réseau national. Dotée d'un capital initial de 50 milliards de dollars, la mission de la NDB, créée par les pays membres du groupe des BRICS, est de favoriser une plus grande coopération financière et de développement entre les pays émergents. La quatrième édition du Forum Afrique Développement aura lieu les 25 et 26 février à Casablanca. L'événement sera dédié à l'agriculture et l'énergie. L'un des événements les plus attendus est la présentation du Club Afrique Développement, un réseau virtuel de consultation via une plateforme qui permet d'accéder à l'information stratégique et à des rapports et analyses des tendances du monde des affaires. Et la 11e édition du sommet du Nigeria se déroulera à Lagos les 7 et 8 mars prochains. Des leaders du monde des affaires, des gouvernements et de la société civile prendront part à cet événement organisé par le célèbre magazine international The Economist. Le Nigeria fait face à de grands défis dus aux implications des forces macroéconomiques mondiales qui sont façonnées par la chute spectaculaire du prix du pétrole, le pilier de l'économie nigériane, rappelle Financial Afrique.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie. Et maintenant, notre page sport avec Élisée Hounepatine. Du football pour commencer avec le tout-puissant Mazembe qui n'a pas tremblé. Il a remporté la Super Coupe d'Afrique face à l'Étoile du Sahel.
Oui, ça fait trois coupes désormais après 2010 et 2011. Les Congolais, vainqueurs de la dernière Ligue des Champions, ajoutent une nouvelle Super Coupe d'Afrique dans leur armoire de trophées. Ils ont dominé les Tunisiens de l'Étoile du Sahel 2-1 grâce à un doublé du Ghanéen Daniel Ni Adjei en première période. Malgré la réduction du score de Msakni juste avant la mi-temps, les Corbeaux sont parvenus à garder l'avantage. Les deux équipes engagées en Ligue des Champions cette année vont entamer leur campagne dans un mois en 16e de finale.
Au Kenya, Bobby Williamson n'est plus l'entraîneur de la sélection.
Arrivé en août 2014, l'Écossais de 54 ans n'a pas vraiment convaincu. Il a été donc remplacé par Stanley Okumbi, ancien entraîneur de Matari United et des sélections des jeunes kenyans. Premier objectif, remporter les deux matchs des éliminatoires de la CAN 2017 prévus fin mars face à la Guinée-Bissau. Les Arambi Stars sont pour l'instant loin du compte avec un point en deux journées dans leur groupe de qualification.
Au Cameroun, Rigobert Song est nommé entraîneur de la sélection locale.
Effectivement, l'ancien international des Lions Indomptables prend la place de Martin Mpile qui a terminé en quart de finale du dernier championnat d'Afrique des Nations au Rwanda. Et puis, rapidement, en Côte d'Ivoire, pas de surprise, Sidi Diallo a bien été réélu à la tête de la fédération pour un nouveau mandat de 4 ans. Il était le seul candidat à se présenter.
Direction le Gabon avec la 10e journée du championnat et CF Mounana est leader.
Oui, vainqueur de l'AS Pélican 1-0, but du Béninois Franck Guédégbé, CF Mounana s'empare de la première place du championnat aux dépens de son adversaire du jour. Équipe entraînée par l'Ivoirien François Mogeigei totalise désormais 22 points, tout comme Manga Sport qui a battu Akanga FC 3-1. En clôture de cette 10e journée, Uzo est allé battre Stade Migovéan 1-0. Et puis, basketball avec vous les derniers résultats des matchs joués cette nuit en NBA.
Tout à fait, Élisée. Une soirée exceptionnelle puisqu'Anthony Davis des Pelicans de New Orleans a marqué 59 points face aux Pistons de Détroit, 106-111. Parmi les autres résultats de la soirée, les Cavaliers de Cleveland se sont facilement imposés face aux Thunder d'Oklahoma City, 115-92. Les Spurs de San Antonio battent les Suns de Phoenix, 118-111. Les Celtics de Boston l'emportent face aux Nuggets de Denver, 121-101. Et les Bulls de Chicago s'imposent face aux Lakers de Los Angeles, 126-115.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg, de nouveau avec vous. Nous passons maintenant au dossier du jour. Résultat des présidentielles en République centrafricaine. Faustin Archange Touadéra a été proclamé vainqueur par l'Autorité nationale des élections. Selon les résultats encore provisoires, le nouveau président a recueilli 62,71% des voix contre 37,29% pour son challenger Anicet Georges Doleguélé. Ce retour sur la proclamation de ces résultats avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Samedi 20 février 2016, à l'annonce des derniers résultats du scrutin présidentiel par l'Autorité nationale des élections, désignant vainqueur Faustin Archange Touadéra, c'est la liesse populaire dans les quartiers de Bangui. Deux milliers de personnes sont sorties dans la rue malgré qu'il s'agit des résultats provisoires.
Je suis très content, je suis très ravi de voir ce président étant le leader qu'il faut. Et effectivement, ces résultats provisoires, l'ANE vient de programmer les résultats par bureau de vote, donc il n'y a pas quelque chose à contredire.
Mais si, on sait que c'est le résultat provisoire, mais on sait que tout ira bien. Et la Cour constitutionnelle va faire son travail dans l'ordre, et j'espère que ça va tout y aller bien.
On est vraiment satisfait, comme vous le savez. À quand Faustin Touadéra, ce n'est pas nous les populations qu'on a élu pour être président aujourd'hui. Mais moi, je sais que c'est Dieu qui l'a élu pour qu'il puisse gérer ce pays-là.
Au même moment, c'est le calme qui règne dans les quartiers généraux d'Anicet Georges Doleguélé. Le candidat déchu va très vite reconnaître sa défaite, mais au nom de la paix.
Chers compatriotes,
pour la paix,
j'ai fait donc le choix de respecter les résultats provisoires publiés par l'ANE, de renoncer à saisir la Cour constitutionnelle de transition et de tous les recours en annulation, et de reconnaître Faustin Ange Touadéra comme président de tous les Centrafricains. J'invite mes militants, sympathisants et alliés à garder le calme dans l'esprit de notre devise et à accompagner le nouveau président de la République dans l'œuvre de réconciliation et de redressement de notre cher et beau pays.
Le lendemain, Faustin Archange Touadéra, donné vainqueur par l'Autorité nationale des élections, salue la déclaration de son rival, estimant qu'il s'agit d'un acte patriotique dans le but de préserver l'unité et la paix.
Comme bon nombre de nos compatriotes ont dû le constater, Anicet Georges Doleguélé et moi avons montré que tous deux, nous aimons profondément ce pays et que nous nous soucions réellement de son avenir. Je salue donc son fair play politique qui montre sa grandeur et son engagement pour le retour de la paix durable en République centrafricaine. Je l'assure de mon amitié et de ma fraternité.
Les Centrafricains ont désormais les yeux tournés vers la Cour constitutionnelle de transition pour les résultats définitifs attendus probablement cette semaine. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Tchad, le scandale du viol d'une fille mineure par des fils de hauts dignitaires du pays est toujours vivace. Accusé de vouloir tenter d'étouffer cette affaire, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ahmad Mahamat Bachir, est sorti de son silence. De N'Djamena, la correspondance d'André Komadjingar.
Après la mise en garde la semaine dernière contre toute organisation qui s'hasarderait à descendre dans la rue pour exiger une justice équitable pour la victime, le ministre tchadien de la Sécurité publique, Ahmad Mahamat Bachir, réagit suite aux accusations portées contre lui par une certaine opinion. Accusations selon lesquelles il aurait fait des pressions sur les parents de la fille violée pour l'amener de force à faire une déclaration à la presse. Ahmad Mahamat Bachir refute ces accusations.
En vertu de quelle loi je me permets de faire pression sur une victime pour dire de contre vérité. Quand j'ai appris cela, j'ai sacrifié mon dimanche pour aller personnellement chez les parents de la victime. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est en ce moment que son père a pris la parole pour me dire, oui, monsieur le ministre, cette affaire-là s'est passée depuis vendredi. Et alors, pourquoi tu ne portes pas plainte contre ces personnes-là? J'ai dit, tu as eu tort de cacher des choses comme ça. Il me dit, mes enfants ont eu le courage d'aller attaquer l'agresseur. Et c'est comme ça qu'on nous a interpellés à la gendarmerie et nous avons réglé le problème à l'amiable. On a même des écrits entre les parents des enfants attaqués et nous-mêmes. Mais je lui ai dit, non, ça ne se passe pas comme ça.
Il informe par ailleurs que c'est sur ses instructions que l'action publique est déclenchée pour retrouver les présumés coupables.
Devant lui, j'ai appelé trois des parents de ces violeurs-là pour leur demander, écoutez, votre fils serait dans une affaire comme ça. Vous le déposez maintenant au commissariat. Et c'est comme ça que l'affaire est partie. Lui-même et sa fille, ils se sont entendus pour faire leur déclaration. Pour quel but? J'en sais rien. Écoutez, nous avons des filles, Nous avons des sœurs dans nos familles respectives. Ce qui s'est passé sur Zuhura, personne au monde admettra cela. Et je m'insurge en ce moment, je suis furieux contre les auteurs de cet acte-là. Quelles étaient ces mauvaises langues-là?
Les 8 présumés auteurs appréhendés par la police sont transférés le week-end dernier à Kourouturu dans une prison sous haute sécurité située à plus de 1000 km au nord du pays. Est-ce une manière de se débarrasser de la patate chaude que les autorités judiciaires ont décidé de transférer ces présumés loin de la capitale? Maouli Luapambe Bruno, procureur général près la cour d'appel de N'Djamena, répond.
Leur détention à N'Djamena ne représente pas une menace. Mais nous avons affaire à un cas exceptionnel. Ce sont des choses qui ne sont jamais arrivées au pays. Le monde entier est irrité. Donc, nous avons l'obligation de réagir de la manière la plus énergique possible. Tout le monde va subir la rigueur de la loi. Et je suis persuadé qu'au moment du jugement, je vais écrire une condamnation ferme contre toutes ces personnes. Nous n'avons peur de rien dans cette affaire-là. Jugez-nous au résultat.
André Kodouma Djingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Au Bénin, la CENA, la Commission électorale nationale autonome, a lancé officiellement la campagne électorale le 19 février dernier. Alors que le premier tour de l'élection présidentielle est prévu pour le 6 mars, les candidats ont 2 semaines pour convaincre les électeurs sur leur capacité à gérer au mieux le pays. Reportage sur les premiers jours de cette campagne électorale avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Ce sont les artistes qui ont annoncé les couleurs de cette campagne électorale. Compte tenu de l'enjeu, ils ont compris qu'il était nécessaire de sensibiliser les populations et même les candidats sur la nécessité de promouvoir la paix et de respecter l'autre dans sa différence et ses opinions. Pour le moment, les candidats comme Lionel Zinsou, Abdoulaye Biotchane, Sébastien Adjavan, Pascal Irini Koupaki ou encore Patrice Talon sont ceux qui rivalisent à deux sur le terrain en thème d'affichage de géants mutines.
L'aspiration profonde de notre candidat est de sortir le Bénin de la malgouvernance, de l'ornière, pour le hisser sur l'orbite du développement, comme le montre si clairement son projet de société.
Il existe deux Lionel Zinsou. Celui qui est fabriqué par les réseaux sociaux, celui que un de mes amis, Patrice, définit, Fignol, un autre de mes amis, Sébastien, complète, beaucoup de gens qui me veulent du bien, fabrique un Lionel Zinsou, que je découvre tous les jours. Alors, il n'a jamais mis les pieds au Bénin. Il y a donc un Lionel Zinsou, comme ça, que je découvre tous les jours, et qui est comme un hologramme, comme un mannequin en cire.
Je voudrais juste vous dire que tout se trouve dans mon projet de société. Je l'ai toujours dit que vous avez en face un agrégé en économie appliquée.
Mais il y a aussi les autres fondus dans la masse, presque inconnus au bataillon certes, mais qui se battent de toute leur force sur le terrain pour se faire accepter par les électeurs.
J'ai vu que le mur de lamentation s'écroule. J'ai vu une voie de défense élevée contre la malgouvernance. J'ai vu des jeunes étudier ou apprendre un métier, entreprendre et innover. J'ai vu une Afrique debout, avec des Africains debout.
Mon rôle, c'est de réactiver l'intelligence positive des Béninois pour faire du Bénin réellement le Singapour de l'Afrique. Réaliser le miracle économique. Moi, président de la République, lorsque je verrai quelqu'un en train de dormir chez lui, un jour au Brabe, j'enverrai la police le chercher pour lui dire pourquoi tu ne travailles pas.
Ils sont finalement 33 candidats scindés en 2 groupes, ceux qui disent s'inscrire dans la continuité des actions du président sortant et les autres qui se réclament de la rupture. Pour le moment, sur le terrain, les populations ne sont pas emballées. La pagaille observée dans la distribution des cartes d'électeurs en est pour beaucoup. De Cotonou, Ginette Cloa Dandé pour VOA Afrique.
À Lubumbashi, en RDC, le coordinateur interprovincial a dénoncé la militarisation du Grand Katanga et les intimidations dont est victime la population de la part des services de sécurité. Les activités de l'opposition seraient également bloquées. La correspondance de Narval Mabila.
Le coordonnateur interprovincial du Front citoyen 2016, Christian Mwando Tsimbakabulo, dénonce la militarisation des 4 provinces du Grand Katanga et les intimidations de services de sécurité. C'était au cours d'un point de presse tenu en sa résidence à Lubumbashi.
Nous appelons les services de sécurité de cesser de traquer
tracassé tous nos compatriotes qui ont été inquiétés à l'occasion de l'exercice de leur droit de manifester le 16 février. Nous demandons à l'ANER d'arrêter les intimidations vis-à-vis des enseignants, des agents et fonctionnaires de l'État et des commerçants qui n'ont fait qu'exercer leur droit de manifester en observant la journée ville morte du 16 février.
Le maire de la ville de Lubumbashi est aussi dans les collimateurs des partis politiques et des ONG qui se décident à désobéir au maire du fait qu'il a verrouillé toutes les activités sans tenir compte des principes garantis par la Constitution. Silence radio à la mairie de Lubumbashi, le professeur Witumulongo fait sa lecture.
La police peut constater que pendant la manifestation, il y a des gens qui ne sont pas venus pour la manifestation. Mais pour en découdre avec l'État, ça peut être pour des raisons idéologiques, du marxisme et tout le reste. À ce moment-là, la police intervient pour séparer le bon gré des livrés. Or, voici qu'on nous fait fonctionner depuis qu'ils sortent dans un système à l'envers. Quelqu'un s'adjuge le pouvoir et dit « Je ne vous ai pas autorisé ». Mais qui vous a autorisé de ne pas autoriser?
C'est dans cette ambiance qu'est la première dame. Olive Lembe Kabila, ce journal Lubumbashi, et où s'est annoncée une révélation sur les Congos démocratiques par le pasteur Léonard Matebwe Lambalamba que le Congo sera un état de providence et porteur du quatrième message de Jésus-Christ avant son retour. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Au Burundi, la radio RENA FM, proche du pouvoir, et la radio Isanganiro, deux des six médias qui étaient suspendus depuis 8 mois, ont signé vendredi dernier avec le Conseil national de la communication un accord pour reprendre leurs émissions. L'organe de régulation des contenus médiatiques burundais demande néanmoins une professionnalisation du travail des journalistes. Mais pour de nombreux observateurs, c'est surtout le signe que la radio Isanganiro passe dans le camp des médias proches du pouvoir. Reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza.
La salle de conférence de la Maison de la Presse à Bujumbura a connu ce vendredi avant midi une affluence qui n'était pas de coutume depuis la fermeture des radios privées suite au putsch manqué du 13 mai 2015. De nombreuses autorités gouvernementales et les journalistes avaient fait le déplacement pour voir de leurs propres yeux la signature de l'acte d'engagement de ces deux radios et télévisions 8 mois après avoir été saccagés par des hommes armés jusqu'ici inconnus. Le président du Conseil national de la communication se dit satisfait de ce pas franchi par ces deux médias, Richard Giramahoro.
La crise qui a récemment secoué le Burundi n'a pas épargné le monde médiatique burundais. Nous avons suivi avec intérêt l'évolution des dossiers judiciaires des médias en suspension et certains de ces dossiers ont connu un développement de rouvrir leur programme actuellement. Il s'agit notamment de la radio privée Isanganiro et la radio-télévision privée REMA. Cet acte d'engagement va constituer un nouveau départ vers un professionnalisme sans faille.
Le directeur général de la radio-télévision REMA FM revient sur les devoirs de sa station, Claude Kurunziza.
Au Burundi, il faut qu'on puisse entendre cette pluralité médiatique qui a toujours caractérisé le Burundi. Mais c'est une question qui se trouve également au niveau des instances judiciaires. Les gens de Sanganiro ont eu à travailler sur leur dossier. Je sais qu'il y a des journalistes qui sont toujours poursuivis par la justice. Ces crimes, il y a, doivent être poursuivis individuellement.
Pour le responsable d'intérim de la radio Sanganiro, cette date reste inoubliable. Il demande que toutes les autres radios indépendantes puissent se réouvrir dans un avenir très proche. Samson Maniratunga.
Nous espérons aussi que la réalité ne concerne pas uniquement les deux radio, mais que ce sera également le même cas pour les autres radios, parce que lors du putsch manqué du 13 mai 2015, les radios qui ont été détruites sont au nombre de 6. Et aujourd'hui, c'est 2 radios qui, selon les promesses, vont être réouvertes. En tout cas, nous serons réjouis, même la population se réjouirait d'entendre encore la diversité de l'information, comme c'était le cas avant la destruction.
Pour de nombreux observateurs de l'univers médiatique burundais, cette réouverture de seulement 2 des 6 médias indépendants au Burundi cache des mobiles politiques. Surtout que la directrice de la radio indépendante Isanganiro vit en exil dans un pays de la région. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Anne Albertson était à la réalisation. John Ellison était à la console. Présentation Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24 heures sur 24 grâce à notre site internet voaafrique.com et grâce à notre page Facebook. Très bonne journée à l'écoute de nos programmes.